Chapitre 7, où l'on redescend sur la terre, la mémoire des rois, les évanouissements d'André, le docteur Louis. Monsieur de Richelieu était dans la chambre à coucher de son hôtel de Versailles, où il prenait son chocolat à la vanille, en compagnie de monsieur Rafté, auquel il demandait des comptes. Le duc, fort occupé de son visage, qu'il regardait de loin dans une glace, ne prêtait qu'une fort médiocre attention aux calculs plus ou moins exacts de monsieur son secrétaire. Tout à coup, un certain bruit de souliers craquant dans l'antichambre annonça une visite, et le duc expédia promptement le reste de son chocolat en regardant avec inquiétude du côté de la porte. Il y avait des heures où monsieur de Richelieu, comme les vieilles coquettes, n'aimait pas à recevoir tout le monde. Le valet de chambre annonça monsieur de Tavernet. Le duc allait sans doute répondre par quelque échappatoire qui eût remis à un autre jour, ou du moins à une autre heure, la visite de son ami, mais aussitôt la porte ouverte, le pétulant vieillard se précipita dans la chambre, tendit en passant un bout de doigt au maréchal et courut s'ensevelir dans une immense bergère qui gémit sous le choc bien plus rude que sous le poids. Richelieu vit passer son ami, pareil à un de ces hommes fantastiques à l'existence desquels Hoffmann nous a fait croire depuis. Il entendit le craquement de la bergère, il entendit un soupir énorme, et se retournant vers son hôte, « Eh, baron, dit-il, qu'y a-t-il de nouveau? Tu me sembles triste comme la mort. » « Triste, dit Tavernet, triste. Pardieu, ce n'est pas un soupir de joie que tu as poussé là, ce me semble. » Le baron regarda le maréchal d'un air qui voulait dire que, tant que Rafté serait là, on n'aurait pas l'explication de ce soupir. Rafté comprit sans avoir la peine de se retourner, car lui aussi, comme son maître, regardait parfois dans les glaces. Ayant compris, il se retira donc discrètement. Le baron le suivit des yeux, et comme la porte se refermait derrière lui, « Ne dis pas triste, duc, fit le baron, dit inquiet et inquiet mortellement. »« Bah, en vérité, s'écria Tavernet en joignant les mains, je te conseille de faire l'étonner. Voilà près d'un grand mois que tu me promènes avec des mots vagues tels que ceux-ci. Je n'ai pas vu le roi, ou bien encore le roi ne m'a pas vu, ou bien le roi me boutre. Cordieu, duc, ce n'est pas ainsi qu'on répond à un vieil ami. Un mois, comprends donc, mais c'est l'éternité. » Richelieu haussa les épaules. « Que diable veux-tu que je dise, baron ? » répliqua-t-il. « Hé, la vérité ! Eh, mordieu, je te l'ai dite, la vérité ! Mordieu, je te la corne aux oreilles, la vérité ! Seulement, tu ne veux pas la croire, voilà tout ! Comment, toi, un duc, épère, un maréchal de France, un gentilhomme de la chambre, tu veux me faire accroire que tu ne vois pas le roi, toi qui vas tous les matins au lever ? Allons donc ! » Ah, je te l'ai dit, et je te le répète, ce n'est pas croyable, mais c'est ainsi. Depuis 3 semaines, je vais tous les jours au lever, moi, duc, père, moi, maréchal de France, moi, gentilhomme de la chambre. Et le roi ne te parle pas ? Interrompit Tavernet. Et tu ne parles pas au roi ? Et tu veux me faire avaler une pareille bourde ? Eh, baron, mon cher, tu deviens impertinent. Tendre ami, tu me dément en vérité, comme si nous avions 40 ans de moins et le coup de pointe facile. « C'est enragé, duc !»« Ah, cela, c'est autre chose. Enrage, mon cher, j'enrage bien, moi. »« Tu enrages. Hein, il y a de quoi, puisque je te dis que depuis ce jour, le roi ne m'a pas regardé, puisque je te dis que sa majesté m'a constamment tourné le dos, puisque chaque fois que j'ai cru devoir lui sourire agréablement, le roi m'a répondu par une affreuse grimace, puisqu'enfin, je suis là d'aller me faire bafouer à Versailles. Voyons, que veux-tu que j'y fasse ?» Tavernet se mordait cruellement les ongles pendant cette réplique du maréchal. « Je n'y comprends rien, dit-il enfin. Ni moi, baron. En vérité, c'est à croire que le roi s'amuse de tes inquiétudes, car enfin... Oui, c'est ce que je me dis, baron, enfin. Voyons, duc, il s'agit de nous sortir de cet embarras. Il s'agit de tenter quelque adroite démarche par laquelle tout s'explique. » « Baron, baron, reprit Richelieu, il y a du danger à provoquer les explications des rois. »« Tu penses ? Oui, veux-tu que je te dise ? Parle. »« Eh bien, je me défie de quelque chose. »« Et de quoi ? » demanda le baron fièrement. « Voilà que tu te fâches. »« Il y a quoi, ce me semble ? Alors, n'en parlons plus. Au contraire, parlons-en, mais explique-toi. Oh, tu as le diable au corps avec tes explications. En vérité, c'est une monomanie, prends-y garde. Je te trouve charmant, Duc. Tu vois nos plans arrêtés, tu vois une stagnation inexplicable dans la marche de mes affaires et tu me conseilles d'attendre. Quelle stagnation, voyons. Mais d'abord, tiens, une lettre? Oui, de mon fils. Ah, le colonel. Beau colonel. Bon, qu'y a-t-il encore par là? Mais il n'y a que depuis près d'un mois aussi, Philippe attend à Reims la nomination que le roi lui a promise, que cette nomination n'arrive pas et que le régiment va partir dans 2 jours. Diable, le régiment part? Oui, pour Strasbourg, de sorte que si dans 2 jours Philippe n'a pas reçu ce brevet, eh bien, dans 2 jours, Philippe sera ici. Oui, je comprends. On l'a oublié, le pauvre garçon. C'est là l'ordinaire dans les bureaux organisés comme ceux du nouveau ministère. Ah, si j'eusse été ministre, le brevet serait parti. Reprit Taverner. Tu dis? Je dis que je n'en crois pas un mot. Comment? Si tu eusses été ministre, tu eusses envoyé Philippe au Saint-Cent-Diable. Oh, et son père aussi. Oh, et sa sœur encore plus loin. Ah, il y a du plaisir à causer avec toi, Taverner, tu es rempli d'esprit, mais brisons-la. Je ne demande pas mieux pour moi, mais mon fils ne peut briser là, lui. Sa position n'est pas tenable. Duc, il faut absolument voir le roi. Eh, je ne fais que cela, te dis-je. Lui parler. Eh, mon cher, on ne parle pas au roi s'il ne vous parle pas. Le forcer. Ah, je ne suis pas le pape, moi. Alors, dit Taverner, je vais me décider à parler à ma fille, car il y a dans tout ceci du louche, monsieur le duc. Ce mot fut magique. Richelieu avait sondé Taverner, il le connaissait roué, comme monsieur Lafare ou monsieur de Nocé, ses amis de jeunesse, dont la belle réputation s'était conservée intacte. Il craignait l'alliance du père et de la fille, il craignait quelque chose d'inconnu, enfin, qui lui causerait disgrâce. Eh bien, ne te fâche pas, dit-il, je tenterai encore une démarche, mais il me faut un prétexte. Et ce prétexte, tu l'as. Moi? Mais sans doute. Lequel? Mais le roi a fait une promesse. À qui? Mais à mon fils. Et cette promesse, eh bien, on peut la lui rappeler. En effet, c'est un biais. As-tu cette lettre? Oui, mais donne-la-moi. Taverner la tira de la poche de sa veste et la tendit au duc en lui recommandant la hardiesse et la circonspection tout à la fois. Le feu et l'eau, dit Richelieu. Allons, on voit bien que nous extravagons. N'importe, le vin est tiré, il faut le boire. Il sonna. Qu'on m'habille et que l'on attelle, dit le duc. Puis, se tournant vers Taverner, est-ce que tu veux assister à ma toilette, baron? Demanda-t-il d'un air inquiet. Taverner comprit qu'il désobligerait fort son ami en acceptant. Non, mon cher, impossible, dit-il, j'ai une course à faire par la ville, donne-moi un rendez-vous quelque part. Mais au château, soit au château. Il importe que toi aussi tu vois sa majesté. Tu crois, dit Taverner, enchanté, je l'exige, je veux que tu t'assures par toi-même de l'exactitude de ma parole. Je ne doute pas, mais enfin, puisque tu le veux, tu aimes autant cela, hein? Mais oui, franchement. Eh bien, dans la galerie des glaces à 11 heures, pendant que moi j'entrerai chez Sa Majesté. Soit, adieu. Sans rancune, hein, cher baron, dit Richelieu, qui, jusqu'au dernier moment, tenait à ne pas se faire un ennemi dont la force était encore inconnue. Taverner remonta dans son carrosse et partit pour faire, seul et pensif, une longue promenade dans le jardin, tandis que Richelieu, laissé aux soins de ses valets de chambre, se rajeunissait à son aise, importante occupation qui ne prit pas moins de 2 heures à l'illustre vainqueur de Mahon. C'était cependant bien moins de temps encore que Taverner ne lui en avait accordé dans son esprit, et le baron, aux aguets, vit à 11 heures précises le carrosse du maréchal s'arrêter devant le perron du palais, où les officiers de service saluèrent Richelieu, tandis que les huissiers l'introduisirent. Le cœur de Tavernet battait avec violence. Il abandonna sa promenade et, lentement, plus lentement que son esprit ardent ne l'eût permis, il se rendit dans la galerie des glaces où bon nombre de courtisans peu favorisés, d'officiers porteurs de placets et de gentillâtres ambitieux, posaient comme des statues sur le parquet glissant, piédestal fort bien approprié au genre de figure amoureuse de la fortune. Tavernet se perdit en soupirant dans la foule, avec cette précaution cependant de prendre une encoignure à la portée du maréchal lorsqu'il sortirait de chez sa majesté. « Oh » murmurait-il entre ses dents, « être relégué avec les hauts bureaux et ses plumets sales, moi qui, il y a un mois, soupais en tête à tête avec sa majesté !» Et, de son sourcil plissé, s'échappait plus d'un soupçon infâme qui eût fait rougir la pauvre Andrée. Richelieu, comme il l'avait promis, s'était allé poser bravement sous le regard de sa majesté au moment où monsieur de Condé lui tendait sa chemise. Le roi, en apercevant le maréchal, fit un si brusque mouvement pour se détourner que la chemise faillit tomber à terre et que le prince, tout surpris, se recula. « Pardon, mon cousin, » dit Louis XV, afin de bien prouver au prince qu'il n'y avait rien de personnel pour lui dans ce brusque mouvement. Aussi Richelieu comprit-il parfaitement que la colère était pour lui. Mais comme il était venu décidé à provoquer toute cette colère, si besoin était, afin d'avoir une explication sérieuse, il changea de face comme à Fontenoy et s'alla poster à l'endroit où le roi devait passer pour entrer dans son cabinet. Le roi, ne voyant plus le maréchal, se remit à parler librement et gracieusement. Il s'habilla, projeta une chasse à Marly et consulta longuement son cousin, car messieurs Condé ont toujours eu la réputation d'être grands chasseurs. Mais au moment de passer dans son cabinet, alors que tout le monde était déjà parti, il aperçut Richelieu, posant avec toutes ses grâces pour la plus charmante révérence qu'on eût faite depuis Lauzun qui, on se le rappelle, saluait si bien. Louis XV s'arrêta, presque décontenancé. « Encore ici, monsieur de Richelieu, » dit-il. « Aux ordres de sa majesté, oui, sire. Mais vous ne quittez donc pas Versailles ?»« Depuis 40 ans, sire, il est bien rare que je m'en sois éloigné pour autre chose que pour le service de votre majesté. » Le roi s'arrêta en face du maréchal. « Voyons, dit-il, vous voulez quelque chose, n'est-ce pas ?»« Moi, sire, » fit Richelieu, souriant, « et quoi donc ?»« Mais vous me poursuivez, duc, morbleu, je m'en aperçois bien, ce me semble. »« Oh, sire, de mon amour et de mon respect, merci, sire. » »« Oh, vous faites semblant de ne pas m'entendre, mais vous me comprenez à merveille. »« Eh bien, moi, sachez-le, monsieur le maréchal, je n'ai rien à vous dire. »« Rien, sire ?» « Absolument rien. » Richelieu s'arma d'une profonde indifférence. « Sire, dit-il, j'ai toujours eu le bonheur de me dire, en mon âme et conscience, que mon assiduité près du roi était désintéressée. Un grand point, sire, depuis ces 40 ans dont je parlais à votre majesté. Aussi, les envieux ne diront pas que jamais le roi m'ait accordé quelque chose. Là-dessus, heureusement, ma réputation est faite. » « Eh, duc, demandez pour vous si vous avez besoin de quelque chose, mais demandez vite. »« Sire, je n'ai absolument besoin de rien. Pour le présent, je me borne à supplier votre majesté. »« De quoi ? De vouloir bien admettre à la remercier. »« Qui cela ? Sire, quelqu'un qui a une bien grande obligation au roi. » « Mais enfin, quelqu'un, sire, à qui votre majesté a fait l'honneur insigne, ah, c'est que, quand on a eu l'honneur de s'asseoir à la table de votre majesté, lorsqu'on a goûté de cette conversation si délicate, de cette gaieté si charmante, qui fait de votre majesté le plus divin convive, c'est qu'alors, sire, on n'oublie jamais et qu'on prend vite une si douce habitude. Vous êtes une langue dorée, monsieur de Richelieu. Oh, sire. En somme, de qui voulez-vous parler ? De mon ami Tavernet. De votre ami ? S'écria le roi. Pardon, sire. Tavernet, reprit le roi avec une espèce d'épouvante qui étonna fort le duc. Que voulez-vous, sire ? Un vieux camarade. Il s'arrêta un instant. Un homme qui a servi sous Villars avec moi. Il s'arrêta encore. « Vous savez, sire, on appelle ami en ce monde tout ce qu'on connaît, tout ce qui n'est pas ennemi. C'est un mot poli qui ne couvre souvent pas grand-chose. » C'est un mot compromettant, duc, reprit le roi avec aigreur, et un mot dont il convient d'user avec réserve. Les conseils de votre majesté sont des préceptes de sagesse. Monsieur de Tavernet, donc, monsieur de Tavernet est un homme immoral. Et bien sûr, dit Richelieu, foi de gentilhomme, je m'en étais douté. Un homme sans délicatesse, monsieur le maréchal. Quant à la délicatesse, aussi, je n'en parlerai pas devant sa majesté. Je ne garantis que ce que je connais. Comment? Vous ne garantissez pas la délicatesse de votre ami, d'un vieux serviteur, d'un homme qui a servi avec vous sous Villard, d'un homme que vous m'avez présenté, enfin? Vous le connaissez, cependant, lui. Lui, certainement, sire, mais sa délicatesse, non. Sully disait à votre aïeul Henri IV qu'il avait vu sortir sa fièvre, habillée d'une robe verte. Moi, j'avoue, bien humblement, sire, que je n'ai jamais su comment s'habillait la délicatesse de Tavernet. Enfin, maréchal, c'est moi qui vous le dis, c'est un vilain homme et qui a joué un vilain rôle. Oh, si c'est sa majesté qui me le dit, oui, monsieur, c'est moi. Eh bien, répondit Richelieu, votre majesté me met tout à fait à mon aise en parlant de la sorte. Non, je l'avoue, Tavernet n'est pas une fleur de délicatesse, je m'en suis bien aperçu. Mais enfin, sire, tant que votre majesté n'a pas daigné me faire connaître son opinion, la voici, monsieur, je le déteste. Ah, l'arrêt est prononcé, sire. Heureusement pour cet infortuné, continua Richelieu, qu'une intercession puissante plaide pour lui près de votre majesté. Que voulez-vous dire? Si le père a eu le malheur de déplaire au roi, et très fort, je ne dis pas non, sire, mais que dites-vous alors? Je dis qu'un certain ange aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Je ne vous comprends pas, duc. Cela se conçoit, sire. Cependant, je désirerais vous comprendre, je l'avoue. Un profane tel que moi, sire, tremble à l'idée de lever un coin du voile sous lequel s'abritent tant de mystères amoureux et charmants. Mais je le répète, combien Tavernet ne doit-il pas d'action de grâce à celle qui adoucit en sa faveur l'indignation royale? Oh oui, mademoiselle André doit être un ange. Mademoiselle André est un petit monstre au physique comme son père l'est au moral, s'écria le roi. Bah, fit Richelieu, au comble de la stupeur, nous nous trompions tous, et cette belle apparence, ne me parlez jamais de cette fille, duc, le frisson me gagne rien que d'y penser. Richelieu joignit hypocritement les deux mains. « Oh, mon Dieu, dit-il, les dehors devenus, si votre majesté, le premier appréciateur du royaume, si votre majesté, l'infaillibilité en personne, ne m'assurait cela, comment pourrais-je le croire? Quoi sûr, contrefaite à ce point? Plus que cela, monsieur, atteinte d'une maladie affreuse, un guet-apens, duc, mais pour Dieu, plus un mot sur elle, vous me feriez mourir. Au ciel, s'écria Richelieu, je n'en ouvrirai plus la bouche, sire. Faire mourir votre majesté, oh, quelle tristesse, quelle famille, doit-il être malheureux, ce pauvre garçon? Mais de qui me parlez-vous donc encore? Oh, cette fois, d'un fidèle, d'un sincère, d'un dévoué serviteur de votre majesté. Oh, par exemple, sire, voilà un modèle, et vous l'avez bien jugé, celui-là. Pour cette fois, j'en réponds, vos faveurs ne sont pas tombées à faux. Mais de qui est-il donc question, duc? Achevez, j'ai hâte. Je veux parler, répondit moelleusement Richelieu, du fils de l'un, sire, et du frère de l'autre. Je veux parler de Philippe de Tavernet, ce brave gentilhomme à qui votre majesté a donné un régiment. Moi, j'ai donc donné un régiment à quelqu'un? Oui, sire, un régiment que Philippe de Tavernet attend toujours, c'est vrai, mais que vous avez donné, enfin. Moi, dame, je le crois, sire. Vous êtes fou. Bah, je n'ai rien donné du tout, maréchal. Vraiment? Mais de quoi diable vous mêlez-vous? Mais si, mais est-ce que cela vous regarde? Moi, pas le moins du monde. Vous avez donc juré alors de me brûler à petit feu avec ce fagot d'épines. Ah, que voulez-vous, sire? Il me semblait, mais je vois bien que je me trompe maintenant, il me semblait que votre majesté avait promis... Mais ce n'est pas mon affaire, duc. Mais j'ai un ministre de la guerre. Je ne donne pas de régiment. Moi, un régiment. La belle bourde qu'on vous a contée là. Ah, vous êtes l'avocat de cette nichée. Quand je vous disais que vous aviez tort de me parler, voilà que vous m'avez mis tout le sang à l'envers. Oh, si. Oui, à l'envers. Le diable soit de l'avocat, je ne digérerai pas de toute la journée. Et là-dessus, le roi tourna le dos au duc et se réfugia tout furieux dans son cabinet, laissant Richelieu plus malheureux qu'on ne saurait dire. « Ah, pour cette fois, murmura le vieux maréchal, on sait à quoi s'en tenir. » Et s'époustant avec son mouchoir, car dans la chaleur du choc il s'était tout empoudré, Richelieu se dirigea vers la galerie à l'endroit de laquelle son ami l'attendait avec une impatience dévorante. À peine le maréchal parut-il que, semblable à l'araignée qui fond sur sa proie, le baron courut sur les nouvelles fraîches. L'œil éveillé, la bouche en cœur, les bras en guirlande, il se présenta. « Eh bien, quoi de nouveau » demanda-t-il. « Il y a de nouveau, monsieur, » répondit Richelieu en se redressant avec une bouche dédaigneuse et une méprisante attaque à son jabot, « il y a que je vous prie de ne plus m'adresser la parole. » Tavernet regarda le duc avec des yeux ébahis. « Oui, vous avez fort déplu au roi, » continua Richelieu, « et qui déplaît au roi m'offense. » Tavernet, comme si ses pieds eussent pris racine dans le marbre, resta cloué dans sa stupéfaction. Cependant, Richelieu continua son chemin. Et puis, arrivé à la porte de la galerie des glaces où l'attendait son valet de pied, « Ah, Lucienne !» cria-t-il, et il disparut. Tavernet, lorsqu'il eut repris ses sens et approfondi ce qu'il appelait son malheur, comprit que le moment était venu d'avoir une explication sérieuse avec la cause première de tant d'alarmes. En conséquence, bouillant de colère et d'indignation, il se dirigea vers la demeure d'André. La jeune fille donnait la dernière main à sa toilette, levant ses bras arrondis pour boucler derrière l'oreille deux tresses de cheveux rebelles. André entendit le pas de son père dans l'antichambre au moment où, son livre sous le bras, elle allait franchir le seuil de son appartement. « Ah, bonjour, André, » dit monsieur de Tavernet. « Vous sortez ?»« Oui, mon père. »« Seul ? » ?»« Vous voyez. »« Vous êtes donc encore seul ?»« Depuis la disparition de Nicole, je n'ai pas repris de fille de chambre. »« Vous ne pouvez vous habiller, André, cela vous fait tort. »« Une femme ainsi mise n'a aucun succès à la cour. »« Je vous avais recommandé tout autre chose, André. »« Pardon, mon père, mais madame la dauphine m'attend. » « Je vous assure, André, » répliqua Tavernet, s'échauffant à mesure qu'il parlait, « je vous assure, mademoiselle, qu'avec cette simplicité, vous finirez par être ridiculisé ici. »« Mon père, le ridicule tue partout et fait plus à la cour. « Monsieur, j'aviserai, mais pour l'instant, madame la dauphine me saura gré de me vêtir moins élégamment en faveur de mon empressement à me rendre auprès d'elle. » « Allez donc, et revenez, je vous prie, aussitôt que vous serez libre, car j'ai à vous entretenir d'une affaire sérieuse. »« Oui, mon père, » dit André, et elle essaya de continuer son chemin. Le baron la regardait de tous ses yeux. « Attendez, attendez, » cria-t-il, « vous ne pouvez pas sortir ainsi, vous avez oublié votre rouge, mademoiselle, vous êtes d'une pâleur repoussante. »« Moi, mon père, » fit André, s'arrêtant, « mais en vérité, » quand vous vous regardez au miroir, à quoi pensez-vous donc? Vos joues sont blanches comme cire, vos yeux cernés d'un demi-pied. On ne sort pas comme ça, mademoiselle, sous peine de faire peur aux gens. Je n'ai plus le temps de changer à ma toilette, mon père. Mais c'est odieux, en vérité, c'est odieux, s'écria Tavernet en haussant les épaules. Il n'y a qu'une femme comme celle-là au monde, et je l'ai pour fille. Quelle atroce chance! André, André! Mais André était déjà au bas de l'escalier. Elle se retourna. « Au moins, » s'écria Tavernet, « dites que vous êtes malade, rendez-vous intéressante, mordieu, si vous ne voulez pas vous faire belle. »« Oh, quant à cela, mon père, ce ne sera pas chose difficile, et je dirai que je suis malade sans mentir, car je suis réellement souffrante en ce moment. »« Bien, » grommela le baron, « il ne nous manque que cela, malade. » Puis, entre ses dents, « peste soit des bégueules, » ajouta-t-il. Et il rentra dans la chambre de sa fille, où, minutieusement, il s'occupa de chercher tout ce qui pouvait aider ses conjectures et lui faire une opinion. Pendant ce temps, Andrée traversait l'esplanade et longeait les parterres. Elle levait parfois la tête pour chercher en l'air de plus vigoureuses aspirations, car le parfum des fleurs nouvelles montait trop violemment à son cerveau et en ébranlait chaque fibre. Ainsi frappée, chancelante sous le soleil et cherchant un appui autour d'elle, la jeune fille parvint, en combattant un malaise inconnu, jusqu'aux antichambres du Trianon, où Madame de Noailles, debout sur le seuil du cabinet de la dauphine, fit comprendre du premier mot à André qu'il était l'heure et qu'on l'attendait. En effet, l'abbé X, lecteur en titre de la princesse, déjeunait avec son Altesse royale qui admettait souvent à de pareilles faveurs les personnes de son intimité. L'abbé vantait l'excellence de ces pains au beurre que les ménagères allemandes savent entasser si industrieusement autour d'une tasse de café à la crème. L'abbé parlait au lieu de lire et racontait à la dauphine toutes les nouvelles de Vienne qu'il avait recueillies chez les gazetiers et les diplomates, car à cette époque la politique se faisait en plein air, aussi bonne, ma foi, que dans les antres les plus secrets des chancelleries, et il n'était point rare au ministère d'apprendre des nouvelles que ces messieurs du Palais-Royal ou des quiconques de Versailles avaient devinées, sinon forgées. L'abbé causait surtout des dernières rumeurs d'une émeute clandestine à propos de la cherté des grains, émeute, disait-il, que monsieur de Sartine avait arrêté tout net en faisant conduire à la Bastille saint des plus forts à Capreur. André entra. La dauphine, elle aussi, avait ses jours de fantaisie et de migraine. L'abbé l'avait intéressée, le livre d'André, arrivant après la causerie, l'ennuya. En conséquence, elle dit à sa lectrice, en second, de faire en sorte de ne pas manquer l'heure, ajoutant que telle chose, bonne en soi, l'était surtout dans son opportunité. Andrée, confuse du reproche et pénétrée surtout de l'injustice, ne répliqua rien, quoiqu'elle eût pu dire qu'elle avait été retenue par son père et forcée de venir lentement, attendu qu'elle était souffrante. Non, troublée, oppressée, elle pencha la tête et, comme si elle allait mourir, ferma les yeux et perdit l'équilibre. Sans Madame de Noailles, elle tombait. « Que vous avez peu de maintien, mademoiselle !» murmura Madame l'étiquette. André ne répondit pas. « Mais, duchesse, elle se trouve mal !» s'écria la dauphine en se levant pour courir à André. « Non, non !» répliqua vivement André, les yeux pleins de larmes. « Non, votre Altesse, je suis bien, ou plutôt, je suis mieux. Mais elle est blanche comme son mouchoir. Duchesse, voyez donc. Au fait, c'est ma faute, je l'ai grondée. Pauvre enfant, asseyez-vous, je le veux. Madame, voyons, quand j'ordonne, donnez-lui votre pliant, l'abbé. » André s'assit, et peu à peu, sous la douce influence de cette bonté, son esprit se rasséréna, les couleurs remontèrent à ses joues. « Eh bien, mademoiselle, pouvez-vous lire maintenant ?» demanda la dauphine. « Oui, bien certainement, je l'espère du moins. » Et André ouvrit le livre à l'endroit où elle avait abandonné sa lecture de la veille, et d'une voix qu'elle essayait de poser pour la rendre plus intelligible et la plus agréable possible, elle commença. Mais à peine ses regards eurent-ils parcouru la valeur de deux ou trois pages que des petits atomes noirs, voltigeant devant ses yeux, se mirent à tourbillonner, à trembloter et devinrent indéchiffrables. André pâlit de nouveau, une sueur froide monta de sa poitrine à son front et ce cercle noir que Tavernet reprochait si amèrement aux paupières de sa fille s'agrandit de telle façon que la dauphine, à qui l'hésitation d'André avait fait lever la tête, s'écria « Encore, envoyez, duchesse, en vérité, cet enfant est malade, elle perd connaissance !» Et cette fois, la dauphine elle-même recourut à un flacon de sel qu'elle fit respirer à sa lectrice. Ainsi ranimé, André voulut essayer de ramasser le livre, mais ce fut en vain. Ses mains avaient conservé un tremblement nerveux que rien ne put apaiser durant quelques minutes. « Décidément, duchesse, dit la dauphine, André est souffrante et je ne veux pas qu'elle aggrave son mal en restant ici. » « Alors il faut que mademoiselle retourne promptement chez elle, » fit la duchesse. « Et pourquoi cela, madame ?» demanda la dauphine. « Parce que, » répliqua la dame d'honneur avec une profonde révérence, « parce que c'est ainsi que commence la petite vérole. »« La petite vérole ? Oui, des évanouissements, des syncopes, des frissons. L'abbé se crut essentiellement compromis dans le danger qu'eût signalé Madame de Noailles, car il se leva de son siège, et grâce à la liberté que lui donnait cette indisposition d'une femme, il s'esquiva sur la pointe du pied et si adroitement que personne ne remarqua sa disparition. Lorsqu'André se vit, pour ainsi dire, entre les bras de la dauphine, la honte d'avoir incommodé à ce point une aussi grande princesse lui rendit des forces, ou plutôt du courage. Elle s'approcha donc de la fenêtre pour respirer. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre l'air, ma chère demoiselle, dit madame la dauphine. Retournez chez vous, je vous ferai accompagner. Oh, je vous assure, madame, dit André, que je me voilà tout à fait remise. J'irai bien chez moi seule, puisque votre Altesse veut bien me donner la permission de me retirer. Oui, soyez tranquille, reprit la dauphine, on ne vous grondera plus, puisque vous êtes si sensible, petite rusée. André, touché de cette bonté qui ressemblait à une amitié de sœur, baisa la main de sa protectrice et sortit de l'appartement, tandis que la dauphine la suivait des yeux avec inquiétude. Lorsqu'elle fut au bas des degrés, la dauphine lui cria de la fenêtre. Ne rentrez pas tout de suite, mademoiselle. Promenez-vous bien dans les parterres. Ce soleil vous fera du bien. Oh, mon Dieu, madame, que de grâce, murmura André. Et puis, faites-moi le plaisir de me renvoyer l'abbé, qui fait là-bas son cours de botanique dans un carré de tulipes de Hollande. André, pour aller joindre l'abbé, fut contrainte de faire un détour. Elle traversa le parterre. Elle allait tête baissée, un peu lourde encore du poids des étourdissements étranges qui la faisaient souffrir depuis le matin. Elle ne donnait aucune attention aux oiseaux qui se poursuivaient effarouchés sur les haies et les charmilles en fleurs, ni aux abeilles bourdonnant sur le thym et le lilas. Elle ne remarquait même pas, à 20 pas d'elle, deux hommes qui causaient ensemble et dont l'un la suivait d'un regard troublé et inquiet. C'était Gilbert et monsieur de Jussieu. Le premier, appuyé sur sa bêche, écoutait le savant professeur qui lui expliquait la manière d'arroser les plantes légères de façon que l'eau passât seulement par les terres sans y séjourner. Gilbert semblait écouter la démonstration avec avidité, et monsieur de Jussieu ne trouvait rien de naturel dans cette ardeur pour la science, car la démonstration était de celle qui soulève les applaudissements sur les bancs des écoliers dans un cours public. Or, pour un pauvre garçon jardinier, n'était-ce point une bonne fortune appréciable que la leçon d'un si grand maître donnée en présence même de la nature? Vous avez, voyez-vous, mon enfant, vous avez ici quatre sortes de terrains, disait monsieur de Jussieu, et si je voulais, j'en découvrirais 10 autres mêlés à ces quatre principaux. Mais pour l'apprenti jardinier, la distinction serait un peu subtile. Toujours est-il que le fleuriste doit goûter la terre, comme le jardinier doit goûter les fruits. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, Gilbert? Oui, monsieur, répondit Gilbert, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte, car il avait vu André, et placé comme il l'était, il pouvait continuer à la regarder sans laisser au professeur le soupçon que sa démonstration n'était pas religieusement écoutée et comprise. Pour goûter la terre, dit monsieur de Jussieu, toujours abusé par l'hiatus de Gilbert, renfermez-en une poignée dans un clayon, versez quelques gouttes d'eau doucement par-dessus, goûtez cette eau lorsqu'elle sortira filtrée par la terre en dessous du clayon. Les saveurs salines ou âcres ou fades ou parfumées de certaines essences naturelles s'approprieront à merveille au suc des plantes que vous voulez y faire pousser. Car dans la nature, dit monsieur Rousseau, votre ancien patron, tout n'est qu'analogie, assimilation, tendance à l'homogénéité. Oh mon Dieu! s'écria Gilbert en étendant les bras devant lui. Qu'y a-t-il donc? Elle s'évanouit, monsieur. Elle s'évanouit. Qui cela? Êtes-vous fou? Elle! Elle! Elle? Oui, reprit Gilbert vivement. Une dame! Et son épouvante et sa pâleur l'eussent trahi aussi bien que le mot elle, si monsieur de Jussieu n'eût pas détourné les yeux de dessus lui pour suivre la direction de sa main. En suivant cette direction, monsieur de Jussieu vit, en effet, André, qui s'était traîné derrière une charmille, et qui, arrivé là, était tombé sur un banc, et qui, là, demeurait immobile, et près de perdre le dernier souffle de sentiment qui lui resta. C'était l'heure à laquelle le roi avait l'habitude de faire sa visite à madame la dauphine et déboucher par le verger, passant du grand au petit Trianon. Sa majesté déboucha tout à coup. Elle tenait une pêche vermeille, miracle de précocité, et se demandait, en vrai roi égoïste, s'il ne vaudrait pas beaucoup mieux, pour le bonheur de la France, que cette pêche fût savourée par lui plutôt que par madame la dauphine. L'empressement de monsieur de Jussieu à courir vers André, que le roi, avec sa vue faible, distinguait à peine et ne reconnaissait pas du tout, les cris étouffés de Gilbert, qui indiquaient la terreur la plus profonde, accélérèrent la marche de sa majesté. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » demanda Louis XV en s'approchant de la charmille, dont il n'était plus séparé que par la largeur d'une allée. « Le roi ! » s'écria monsieur de Jussieu, soutenant dans ses bras la jeune fille. « Le roi ! » murmura André en s'évanouissant tout à fait. « Mais qui donc est là ? » répéta Louis XV. « Une femme ? Que lui arrive-t-il à cette femme ? Sire, un évanouissement. »« Ah, voyons !» dit Louis XV. « Elle est sans connaissance, sire, » ajouta monsieur de Jussieu en montrant la jeune fille étendue, roide et immobile, sur le banc où il venait de la déposer. Le roi s'approcha, reconnut André et s'écria en frissonnant, « Encore ? Oh, mais c'est épouvantable, cela ! Quand on a de pareilles maladies, on reste chez soi. Ce n'est pas propre de mourir comme cela toute la journée devant le monde. » Et Louis XV rebroussa chemin pour gagner le pavillon du petit Trianon en grommelant mille choses désagréables pour la pauvre André. Monsieur de Jussieu, qui ignorait les antécédents, demeura un instant stupéfait, puis se retournant et voyant Gilbert à 10 pas dans l'attitude de la crainte et de l'anxiété, « Arrive ici, Gilbert » cria-t-il, « tu es fort, tu vas emporter mademoiselle de Tavernet jusque chez elle !» « Moi ! » s'écria Gilbert, frémissant, « moi, l'emporter, la coucher, non, non, elle ne me pardonnerait pas, non, jamais !» Et il s'enfuit, éperdu, en appelant au secours. À quelques pas de l'endroit où André s'était évanoui, travaillaient 2 aides-jardiniers qui accoururent au cri de Gilbert, et s'étant mis aux ordres de monsieur de Jussieu, transportèrent André dans sa chambre, tandis que Gilbert suivait de loin et la tête baissée, ce corps inerte, morne, comme l'assassin qui marche derrière le corps de sa victime. Monsieur de Jussieu, arrivé au perron des communs, débarrassa les jardiniers de leur fardeau. André venait d'ouvrir les yeux. Le bruit des voix et cet empressement significatif qui a lieu autour de tout accident attirèrent monsieur de Tavernet hors de la chambre. Il vit sa fille, chancelante encore, essayer de se redresser pour monter les degrés avec l'appui de monsieur de Jussieu. Il accourut en demandant, comme le roi, « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » « Rien, mon père, » répliqua faiblement André, « un malaise, une migraine. « Mademoiselle est votre fille, monsieur ?» dit monsieur de Jussieu en saluant le baron. « Oui, monsieur. » Ah, je ne puis donc la laisser en de meilleures mains, mais, au nom du ciel, consultez un médecin. Oh, ce n'est rien, dit André. Et Tavernet répéta, oh, certainement, ce n'est rien. Je le souhaite, monsieur, dit monsieur de Jussieu, mais, en vérité, mademoiselle était bien pâle. Et là-dessus, après avoir donné la main à André jusqu'au haut du perron, monsieur de Jussieu prit congé. Le père et la fille demeurèrent seuls. Tavernet, qui, pendant l'absence d'André, avait mis certainement le temps à profit pour de bonnes réflexions, vint prendre la main d'André, restée debout, la conduisit à un sofa, la fit asseoir et s'assit près d'elle. « Pardon, monsieur, dit André, mais soyez assez bon pour ouvrir la fenêtre, je manque d'air. C'est que je voulais causer un peu sérieusement avec vous, André, et dans cette cage que l'on vous a donnée pour demeure, un souffle s'étend de tous côtés, mais... « N'importe, je parlerai bas. » Et il ouvrit la fenêtre. Puis, revenant s'asseoir, en secouant la tête près de sa fille, Il faut avouer, dit-il, que le roi, qui nous avait d'abord témoigné tant d'intérêt, ne fait pas preuve de galanterie en vous laissant habiter un pareil taudis. Mon père, répondit André, il n'y a pas de logement à Trianon. Vous savez que c'est le grand défaut de cette résidence. Qu'il n'y ait pas de logement pour d'autres, dit Tavernet avec un sourire insinuant, je le concevrais. À la rigueur, ma fille, mais pour vous, en vérité, je ne le conçois pas. Vous avez trop bonne opinion de moi, monsieur, répliqua André en souriant, mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Tous ceux qui vous connaissent, ma fille, sont au contraire comme moi. André s'inclina, comme elle l'eût fait, pour remercier un étranger, car ses compliments de la part de son père commençaient à lui donner quelque inquiétude. « Et, continua Tavernet avec son même ton doucereux, le roi vous connaît, je suppose. » Et tout en parlant, il dardait sur la jeune fille un regard dont l'inquisition était insupportable. « Mais le roi me connaît à peine, » répliqua André le plus naturellement du monde, « et je suis peu de chose pour lui, à ce que je présume. » Ces mots firent bondir le baron. « Peu de chose !» s'écria-t-il. « Mais en vérité, je ne conçois rien à vos paroles, mademoiselle. Peu de chose. Par exemple, vous mettez un bien bas prix à votre personne. » André regarda son père avec étonnement. « Oui, oui, » continua le baron, « je le dis et je le répète, vous êtes d'une modestie qui va jusqu'à l'oubli de la dignité personnelle. » « Oh, monsieur, vous exagérez tout. Le roi s'est intéressé au malheur de notre famille, c'est vrai. Le roi a daigné faire quelque chose pour nous, mais il y a tant d'infortunes autour du trône de sa majesté. Il s'échappe tant de largesses de sa main royale que l'oubli devait nécessairement nous envelopper après le bienfait. » Tavernet regarda fixement sa fille, et non sans une certaine admiration de sa réserve et de sa discrétion impénétrable. « Voyons, lui dit-il en se rapprochant d'elle, voyons, ma chère Andrée, votre père sera le premier solliciteur qui s'adresse à vous, et à ce titre, j'espère que vous ne le repousserez pas. » Andrée, à son tour, regarda son père en femme qui demande une explication. « Voyons, continua-t-il, nous vous en prions tous, intercédez pour nous, faites quelque chose pour votre famille. »« Mais à quel propos me dites-vous cela? Mais que voulez-vous donc que je fasse ?» s'écria André, stupéfaite du ton et du sens des paroles. « Êtes-vous disposé, oui ou non, à demander quelque chose pour moi et pour votre frère? Dites !» « Monsieur, répondit André, je ferai ce que vous m'ordonnerez de faire, mais en vérité, ne craignez-vous pas que nous paraissions trop avides? Déjà, le roi m'a fait don d'une parure qui vaut, dites-vous, plus de 100 000 livres. Le roi a en outre promis un régiment à mon frère. Nous absorbons ainsi une part considérable des bienfaits de la cour. » Tavernet ne put retenir un éclat de rire strident et dédaigneux. « Ainsi, dit-il, vous trouvez que c'est assez payé, mademoiselle ?»« Je sais, monsieur, que vos services valent beaucoup, » répondit André. « s'écria Tavernet impatienté, « qui diable vous parle de mes services ?»« Mais de quoi me parlez-vous donc, alors ?»« En vérité, vous jouez avec moi un jeu de dissimulation absurde. » « Mais qu'ai-je donc à dissimuler, mon Dieu ?» demanda André. « Mais je sais tout, ma fille. »« Vous savez, tout, vous dit. »« Tout quoi, monsieur ?» Et le visage d'André se couvrit d'une rougeur instinctive, née de cette attaque grossière à la plus pudique des consciences. Le respect du père envers l'enfant arrêta Tavernet sur la pente devenue si rapide de ses interrogations. « Allons, soit, tant qu'il vous plaira, dit-il, vous voulez faire la réservée, à ce qu'il paraît, la mystérieuse, soit, vous laissez croupir votre père et votre frère dans l'obscurité de l'oubli, et c'est bien, mais rappelez-vous mes paroles, quand ce n'est pas dès le début qu'on prend de l'empire, on s'expose à n'avoir de l'empire jamais. » Et Tavernet fit une pirouette sur le talon. « Je ne vous comprends pas, monsieur, dit André. « Très bien, mais... » « Je comprends, moi, » répondit Tavernet. « Cela ne suffit point lorsqu'on parle à deux. » Eh bien, je serai plus clair. Employez donc toute la diplomatie dont vous êtes pourvu naturellement et qui est une vertu de famille à faire, pendant que l'occasion s'en présente, la fortune de votre famille et la vôtre. Et la première fois que vous verrez le roi, dites-lui que votre frère attend son brevet et que vous vous étiolez dans un logement sans air et sans vue. En un mot, ne soyez pas assez ridicule pour avoir trop d'amour ou trop de désintéressement. Mais, monsieur, dites cela au roi, dès ce soir. Mais où voulez-vous que je voie le roi ? Et ajoutez qu'il n'est pas concevable pour Sa Majesté de venir, au moment où Tavernet allait sans doute, par des paroles plus explicites, soulever la tempête qui s'amassait sourdement dans la poitrine d'André et provoquer l'explication qui eût éclairci le mystère, on entendit des pas dans l'escalier. Le baron s'interrompit aussitôt et courut à la rampe pour voir qui venait chez sa fille. André vit avec étonnement son père se ranger contre la muraille. Presque au même moment, la dauphine, suivie d'un homme vêtu de noir et appuyé sur une longue canne, entra dans le petit appartement. « Votre Altesse !» s'écria André, en réunissant toutes ses forces pour aller au-devant de la dauphine. « Oui, petite malade, » répondit la princesse, « je vous amène la consolation et le médecin. Venez, docteur. » « Ah, monsieur de Tavernet, » continua la princesse en reconnaissant le baron, « votre fille est souffrante, et vous n'avez guère soin de cet enfant. »« Madame, » balbutia Tavernet, « venez, docteur, » dit la dauphine avec cette bonté charmante qui n'appartenait qu'à elle, « venez, tâtez ce pouls, interrogez ses yeux battus, et dites-moi la maladie de ma protégée. »« Oh, madame, que de bonté !» murmura la jeune fille. « Comment osais-je recevoir votre Altesse royale ?»« Dans ce taudis, voulez-vous dire, cher enfant. Tant pis pour moi qui vous loge si mal. J'aviserai à cela. Voyons, mon enfant, donnez votre main à monsieur Louis, mon chirurgien. Prenez garde, c'est un philosophe qui devine, en même temps que c'est un savant qui voit. » André, souriante, tendit sa main au docteur. Celui-ci, homme jeune encore et dont la physionomie intelligente tenait tout ce que la dauphine avait promis pour lui, n'avait point cessé, depuis son entrée dans la chambre, de considérer la malade d'abord, puis la localité, puis cette étrange figure de père qui n'annonçait que la gêne et pas du tout l'inquiétude. Le savant allait voir, le philosophe avait peut-être déjà deviné. Le docteur Louis étudia longtemps le pouls de la jeune fille et l'interrogea sur ce qu'elle ressentait. « Un profond dégoût pour toute nourriture, » répondit André, « des tiraillements subis, des chaleurs qui montent tout à coup à la tête, des spasmes, des palpitations, des défaillances. » À mesure qu'André parlait, le docteur s'assombrissait de plus en plus. Il finit par abandonner la main de la jeune fille et par détourner les yeux. « Eh bien, docteur, » dit la princesse au médecin, « quid, comme disent les consultants, l'enfant est-elle menacée et la condamnez-vous à mort ?» Le docteur reporta ses yeux sur André et l'examina une fois encore en silence. « Madame, » dit-il, « la maladie de mademoiselle est des plus naturelles. » « Et dangereuse ?»« Non, pas ordinairement, » répondit le docteur en souriant. « Ah, fort bien, » dit la princesse en respirant plus librement. « Ne la tourmentez pas trop. »« Oh, je ne la tourmenterai pas du tout, madame. »« Comment, vous n'ordonnez aucune prescription ?»« Il n'y a absolument rien à faire à la maladie de mademoiselle. »« C'est vrai ?»« Non, madame. »« Rien ?»« Rien. » Et le docteur, comme pour éviter une plus longue explication, prit congé de la princesse sous prétexte que ses malades le réclamaient. « Docteur, docteur, » dit la dauphine, « si ce que vous dites n'est pas seulement pour me rassurer, je suis bien plus malade que mademoiselle de Tavernet. Apportez-moi donc sans faute à votre visite de ce soir les dragées que vous m'avez promises de me faire dormir. »« Madame, je les préparerai moi-même en rentrant chez moi. » Et il partit. La dauphine resta près de sa lectrice. « Rassurez-vous donc, ma chère André, » dit-elle avec un bienveillant sourire, « votre maladie n'offre rien de bien inquiétant, car le docteur Louis s'en va sans vous rien prescrire. »« Tant mieux, madame, répliqua André, car alors rien n'interrompra mon service auprès de votre Altesse royale, et c'est cette interruption que je craignais par-dessus toute chose. Cependant, n'en déplaise au savant docteur, oh, je souffre bien, madame, je vous jure. Ce ne doit cependant pas être une grande souffrance qu'un mal dont rit le médecin. Dormez donc, mon enfant, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous servir, car je remarque que vous êtes seul. Veuillez m'accompagner, monsieur de Tavernet. » Elle tendit la main à André et partit après l'avoir consolé, ainsi qu'elle l'avait promis.